Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h01 sur RMC, la deuxième heure de Roten sans flamme en mode Ligue des champions. On va parler du champion d'Europe dans un instant, le Paris Saint-Germain. On a déjà bien parlé de l'Olympique de Marseille, de l'AS Monaco. Dans la première heure, vous pouvez aller télécharger le podcast, vous abonner à la chaîne Roten sans flamme. C'était déjà disponible. On est avec Jean-Pierre Papin, avec Christophe Dugarry, avec Benoît Boutron. Mais restez là avec nous jusqu'à 20h. On fait monter la sauce, là. Ça y est, ça arrive bientôt dans 2 heures à peu près, le coup d'envoi des matchs.
D'ici 20h, vous aurez les compos des équipes françaises engagées ce soir. C'est la grande soirée de Ligue des Champions, les 18 matchs à suivre en direct en intégralité, les compos de Monaco, de Marseille et du PSG, dont on va parler dans un instant. Il y aura le quiz à 19h45 avec un magnifique cadeau. Le maillot du PSG bleu, signé et authentifié de Vitinha, grâce à notre partenaire authentiquesignature.com. Pour vous inscrire, vous appelez le 3216 ou alors vous envoyez quiz par SMS au 73216. J'ai deux infos pour vous à 19h30. La première, c'est qu'on va vous raconter le putsch raté de John Textor pour redevenir président de l'OL ce matin. Ça, c'est une histoire assez
c'est fou,
rocambolesque. Édouard G était le premier sur le coup, il va tout nous raconter. La deuxième, c'est que Ligue 1 Plus se positionne.
Qu'ils vont le virer, celui-là, là.
Ah, bah justement, ah bah on fera le débat. Est-ce qu'il faut le bannir du monde du foot? Ça sera notre débat. Et la deuxième, c'est donc que Ligue 1 Plus se positionne sur la Coupe du Monde pour devenir le diffuseur payant en France de la Coupe du Monde. Il y a un préaccord avec la FIFA, mais rien de signé pour le moment. Ça coûterait 20 millions d'euros donc à Ligue 1 Plus et au club de Ligue 1. Le direct, le handball, l'équipe de France face à l'Allemagne. Nicolas Paul Orsi alors.
Oh, c'est en train de se tendre les amis, 18 minutes dans ce match, les Allemands sont devant, 25 pour l'Allemagne, 22 pour la France, 3 buts, on a
alors,
eu
peut-être,
des
alors,
opportunités
peut-être.
Pour revenir à 2 buts. Ouais, mais on a trop de déchets là dans le duel tireur gardien,
si
ça fait
si tu prends pas toi
deux
aussi,
attaques.
Nico.
Bah c'est compliqué, on est dominé hein, depuis le début de ce match-là. Alors rien n'est impossible, 3 buts c'est pas grand-chose. On a surtout des arrêts de gardien là qui nous font du bien. Avec Rémi Desbonnets, le ballon pour les Allemands. Avec Uchins qui a failli passer, mais bonne défense française. Il y a de l'agressivité, on a haussé le curseur là dans ce secteur de jeu. 18 minutes à jouer, plus
ça fait du bien quand il y a un gardien qui fait des arrêts.
Exactement.
Ouais.
Ah bah ouais, l'autre il a rien fait en première mi-temps.
Ça fait souvent la différence.
Allez, 19h04 sur RMC.
Oui, c'est comme au foot, t'as raison.
Est-ce qu'on aura le bon ou le mauvais PSG ce soir en Ligue des Champions?
7-5, c'est la Champions League. 9-1, c'est la Champions League.
Jour.
Ramos, le but. Parisien.
Nuit.
Ça fait 2 pour le Bayern Munich. 2-0 pour les Bavarois qui viennent d'inscrire le deuxième par le même joueur, Luis Diaz.
Jour.
Vitinha qui en a sa réparation.
Frappe de Vitinha. Oh, mais c'est fou. Vitinha le sauveur.
Nuit.
Oh, le but. La tête de Luis Suarez, 2-1 pour le Sporting.
C'est clair que pour nous, l'objectif, c'est de qualifier dans les 8e première, chercher à gagner les matchs contre une très bonne équipe comme Newcastle.
Tu as des devoirs et des obligations, et on le sait tous, frustration ou pas frustration.
Le champion d'Europe parisien doit donc attendre la dernière journée pour assurer sa place dans le top
8.
Paris-Newcastle au Parc des Princes ce soir.
La Champions League.
C'est l'affiche du soir. Au niveau du classement, le 6e face au 7e de la saison régulière. D'après nos amis d'Opta, 53% de chances de terminer dans le top 8 pour le PSG. C'est une victoire quasi impérative pour assurer cette qualif directe en 8e de finale. Valentin Jamain est déjà au Parc des Princes pour RMC Sport. Salut Valentin.
Salut messieurs, bonjour.
Salut
à
Valentin.
Tous.
Bon, quelle est l'importance de ce rendez-vous pour Paris? Est-ce qu'on le prend comme un match crucial et décisif pour le parcours européen?
Décisif, oui, crucial, on va pas non plus exagérer au niveau des termes, on a un petit peu dédramatisé toutes ces dernières semaines du côté du PSG. Alors évidemment, hein, ce soir c'est opération top 8 parce que basiquement Paris veut gagner tous ses matchs, surtout à domicile, parce que ça enlèverait aussi de la pression aux Parisiens sur un éventuel barrage. Ça allégerait leur calendrier et ça leur permettrait de travailler un peu plus à l'entraînement, mais on a bien senti que Paris n'en fait pas une obsession de ce top 8. C'est comme ça un petit peu aussi qu'il faut traduire le discours de Luis Enrique. Il était allé un peu plus loin, rappelez-vous, à Lisbonne. Il disait presque que ce serait mieux de ne pas être dans le top 8, ça pourrait nous faire un barrage, avoir du rythme. Donc l'idée c'est quand même de dire qu'on dédramatise à Paris l'enjeu de la qualification directe pour les 8e de finale. Hier, Luis Enrique il a même dit, c'est un peu évident mais on a compris l'idée, bah, je préfère finir 15e et gagner la Ligue des Champions que terminer 6e et pas aller aussi loin que l'an passé. Voilà, je signe pour être barragiste et gagner à la fin. Donc pour lui c'est pas maintenant que ça se joue, il attend avec impatience et vraiment une grande impatience les matchs à élimination directe où il dit que son équipe est très très dure à battre être dans ces moments, même si évidemment ce soir au Parc, Paris veut finir le boulot. On a reposé Hakimi ce week-end, on a reposé Nuno Mendes ce week-end à Auxerre. C'est bien pour battre Newcastle alors qu'il y a plein de blessés qui reviennent.
Merci Valentin. Roten se chauffe. Est-ce que manquer le top 8 ce serait un échec pour ce Paris Saint-Germain? 32-16, Jérôme.
Un échec, le mot est dur, mais ça serait une contre-performance, ça c'est sûr, parce que l'objectif du club, ils sont pas cachés, c'est de s'éviter le barrage, le 16e de finale comme l'année dernière. Je pense que par rapport au parcours du début et les résultats qui ont tourné en faveur du PSG, très vite ils se sont dit on va finir dans les 4. Après, ouais. Vu qu'il y a eu des résultats mitigés et une défaite par-ci, un match nul par-là, ils se sont dit bon ben on va essayer de finir dans les 8. Et je te le dis parce que j'ai échangé hier avec la plupart des acteurs au Paris Saint-Germain et ils te disent une chose, c'est que on n'a pas eu de jour de repos depuis la reprise là, depuis le nouvel an.
Pas un jour de coupure.
Il n'y a pas eu un jour de coupure. Que il peut y avoir aussi un ras-le-bol au bout d'un mois quand il n'y a pas de coupure parce que t'enchaînes tous les trois jours, t'as les déplacements au Koweït, t'as ceci cela. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place. Il y a eu les blessures aussi de certains joueurs. Il fallait les remettre sur pied. Aujourd'hui, il n'y a plus de blessures. Tous les joueurs sont aptes. Alors, on va te dire qu'en Gingli, il est pas encore là et Njantou pareil.
Ruiz
mais,
aussi.
Mais Ruiz. Mais depuis hier soir, ça
ouais,
c'était.
Ouais, ouais, il s'est entraîné. Hein,
c'était hier soir, il s'est entraîné. Donc il y a aussi une gestion par rapport à ces joueurs-là. Mais ils sont quasiment tous opérationnels. Aujourd'hui, ils te disent donc une chose. Si on gagne et on finit dans les 8, on aura 5 semaines de suite à un match par semaine vu qu'il n'y a plus la Coupe de France. Donc là, ça sera l'occasion de faire souffler les têtes, les organismes de certains et l'objectif du club, il est bien là. Donc moi, je veux bien qu'on dédramatise ce match, mais il est hyper important pour la suite.
Oui, voilà.
Donc le PSG doit faire tourner le compteur. Newcastle, c'est pas non plus un ogre européen. On l'a vu, des résultats mitigés.
Ils sont 7e quand même.
Non, mais d'accord.
Ils ont pas croisé de club anglais.
Ils ont perdu à Marseille.
Ils ont perdu à Marseille. À l'extérieur, ils ont beaucoup de mal. Beaucoup de mal. À domicile, c'est autre chose. Mais là, c'est un match au Parc des Princes. Donc, en toute logique, il y a 2-3 absents importants aussi du côté de Newcastle. Oui.
Guimaraes incertain d'ailleurs, hein, Valentin.
Oui, Guimaraes incertain. Il a raté le match ce week-end. Et depuis qu'il est arrivé en 2022, en première ligue, quand il n'y a pas de Guimaraes, il n'y a pas de victoire.
C'est fou. Ça,
il est incertain. Il s'est entraîné hier, mais il pourrait ne pas débuter.
Dugas, est-ce que ce serait un échec de ne pas faire top 8 pour le PSG?
Oh bah oui, quand tu es tenant du titre, de pas te qualifier dans les 8, oui, ça serait une contre-performance. Après, ça remet rien en question, bien évidemment. J'avais pas trop compris, moi, le discours de Luis Enrique, il y a quelques semaines de ça, où il nous expliquait que ça serait pas mal
pas
de pouvoir faire,
voilà,
j'avais dit, non, mais n'importe quoi, je veux bien qu'on me fasse avaler des couleuvres, et que je comprends pas grand chose, mais là, je trouvais que c'était un peu fort de café. Il est revenu à la raison, tant mieux. Bien évidemment que Paris doit se qualifier, doit finir dans les 8 premier et Paris va le faire, ils vont les éclater. Newcastle c'est pas du tout la même équipe à domicile qu'à l'extérieur, et à l'extérieur ils éprouvent les pires difficultés. Donc voilà, sincèrement j'ai aucun doute sur le fait que ce soir ça va être une belle victoire avec la manière du Paris Saint-Germain.
JPP, ce sera un échec alors?
Non, ça serait une déception, ça serait une grosse déception, parce que quand on a les ambitions du PSG, qu'on est champion d'Europe en titre, finir même dans les 4 premiers, ça serait normal. Après, quand on voit ce qu'ils ont fait l'année dernière, sincèrement, je suis pas inquiet non plus pour eux. Je partage un peu l'avis de Dugas, c'est que je pense qu'ils vont les éclater aussi ce soir au Parc. Mais Paris, ça reste Paris avec au moins autant de force que l'année dernière. Donc, je pense qu'ils vont se qualifier dans les 8 premiers. Ils vont attendre tranquillement, ils vont pouvoir récupérer un petit peu et après, c'est sûr que en match aller-retour, c'est pas du tout la même équipe. Comme l'OM d'ailleurs. Attention, en match aller-retour, c'est pas la même chose.
Ah, voilà, JPP. Une parole de sage.
Bon, ça y est, il annonce la couleur.
Le handball.
Mais autant l'annoncer de suite.
Nico Poilor, 6 contre l'Allemagne. Incroyable.
Ah ouais, on est en train de revenir. Il reste 12 minutes. Est-ce que les Bleus vont réussir à renverser cette Allemagne? C'est pas fait parce que les Allemands ont le ballon du plus de dans les mains. Mais c'est vrai qu'on est dans un temps fort. Hutchins qui est bien défendu. Ludovic Fabregas. Il y a un tir à l'aile pour l'Allemagne. Arrêté par Rémi Desbonnets. Mais il y aura un penalty pour les Allemands après cette défense en zone. Et on a un joueur stratosphérique. C'est Dika Mem qui est à 9 sur 11. 9 buts marqués. 6 passes décisives. Sauf qu'il a eu des crampes et qu'il a été obligé de sortir. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les Bleus. Il y aura un 7 mètres pour l'Allemagne, un pénalty. Il reste un peu plus de 11 minutes dans ce match et les Allemands ont un ballon pour garder 2 buts d'avance.
Ouais. Une heure d'autonomie, ça nous rappelle une autre patte gauche, hein, mais dans le foot cette fois, il y a quelques années. Ouais, c'est ça. Dugas et JPP encore. Je vous trouve très confiant quand même. Vous me dites, ouais, ils vont éclater Newcastle et tout, mais rassurez-moi, vous les avez vus les derniers matchs du PSG ou pas? Parce que bon, ouais, l'efficacité.
Et Newcastle, tu les as vus?
Non, d'accord, mais bon, tu bats au CR1-0, tu perds en Sporting. Il n'y a pas vraiment de grand match référence depuis le début de l'année 2026. Hein.
Bah, même ils ont été emmenés 2-0, ils en ont mis 5 à Tottenham, donc si tu veux.
Alors moi je te cache pas que j'ai du mal à être inquiet même quand je vois des contre-performances du Paris Saint-Germain, même s'ils sont moins dominateurs, même si tout fonctionne moins bien que la saison dernière, mais j'y vois et j'y trouve des explications. Alors je me trompe peut-être, mais moi j'ai du mal à m'inquiéter pour ce Paris Saint-Germain là, moins dominateur, moins performant. Pour l'instant, ouais, c'est vrai que j'ai du mal à me mettre dans cette idée là.
Il y a des joueurs qui sont encore au même niveau que l'année dernière.
Et ils vont pas jouer toute la saison comme ça, donc ils vont pas avoir toute la saison des blessés, ils vont pas avoir toute la saison des joueurs entre guillemets pas à 100%. Ça peut arriver, attention, ils peuvent tomber sur une saison noire avec des blessures à répétition, avec des joueurs qui arrivent pas à retrouver leur niveau, avec il peut tout se passer. Mais j'ai du mal à y croire à ce scénario-là.
Voilà. Je vous trouve très indulgent quand même. Franchement,
tu peux, c'est
non, certainement vrai. Cette saison, ils ont gagné que 3 matchs à l'extérieur, Newcastle. On est en janvier, donc ils sont vraiment très grande difficulté.
Que Newcastle ne soit pas un grand d'Europe, on est tous d'accord. Ouais. Mais si on se concentre un peu sur les prestations récentes du Paris Saint-Germain.
Benoît, si on se concentre.
Et en jouant mal, ils sont 6e, t'imagines.
Et contre le Sporting, tu mérites.
Non, mais ils avaient très bien démarré le PSG, souvenez-vous. Non, ils gagnent à Barcelone, ils éclatent dès le début l'Atalanta.
Là où je suis d'accord avec toi, Benoît, parce qu'on est bien placé. Nous, on voit quasiment tous les matchs. Tu viens aussi très souvent au Parc des Princes et je sais que t'es très concentré. Et surtout, tu as très envie d'y aller à chaque fois, donc ça fait plaisir.
J'y serai ce soir.
Ce que je veux te dire, c'est que les matchs de Ligue des Champions, c'est autre chose. C'est moi ce que je leur reprochais il y a X mois et X années au Paris Saint-Germain, c'est de ne pas en faire un événement. En effet, je pense qu'en effet, l'année dernière, il y a eu un déclic de ce côté-là, le déclic peut-être contre Manchester City au mois de janvier, et que l'approche sur ces matchs de Ligue des Champions est différente. Et tu vois, tu regardes. Depuis le début de saison, en Ligue 1, je suis d'accord avec toi, c'est une équipe qui ronronne. À l'extérieur, par moment, même en Ligue des Champions, elle peut se faire attraper. Sauf qu'au Parc des Princes, franchement, il y a eu le match du Bayern. Mais bon, il y a l'état du Bayern et l'état du PSG à ce moment-là, où il y avait des retours de blessures, des mecs qui étaient en méforme. Aujourd'hui, ces joueurs-là, ils sont quand même meilleurs. Ils l'ont montré.
Donc le même scénario qu'au Sporting, c'est impossible.
Bah, impossible.
Tu domines et tu te fais contrer deux fois.
Au Parc des Princes, je vais te dire, ils ont une exigence qui est incroyable.
Ils ont pu sortir par le Paris FC en Coupe de France.
Non, mais en Ligue des Champions, je te parle. Au Parc des Princes, ils ont une exigence. Ils se mettent en mode Ligue des Champions, en mode rouleau compresseur.
Donc, il y a un bouton, alors.
Et je pense, non, mais je pense qu'en effet, ils arrivent à faire des matchs qui sont bien plus conséquents en Ligue des Champions qu'en championnat ou en Coupe de France. Et que, en plus de ça.
Et puis l'adversaire aussi.
Oui, t'as l'adversaire aussi.
Moi, je m'appelle aujourd'hui pour jouer au football, il faut être deux, hein, les amis. Hein.
Oui, mais arrêtez de me faire passer Newcastle pour une équipe de peintres. Newcastle, ils peuvent se qualifier pour le top 8 aussi.
C'est pas une équipe de peintres, mais c'est pas non plus un grand.
Mais oui, exactement. Mais Newcastle, chez eux, Dugas, Jean-Pierre et moi, on peut te le dire parce qu'on y a joué là-bas contre Newcastle. C'est une ambiance de malade. Ça n'a jamais changé et de toute façon c'est toujours très compliqué pour les équipes adverses et le PSG le sait parce qu'ils en avaient pris une bonne il y a quelques années. Mais à l'extérieur, Newcastle, c'est pas la même équipe, tu le vois, de toute façon il y a juste à regarder. En plus là ils ont des joueurs absents, un joueur important peut-être Guimarães qui sera pas là. Écoute, heureusement que le PSG n'a pas de crainte particulière à avoir de ce Newcastle.
Si là le PSG se fait taper là ce soir, sincèrement,
on serait inquiet.
Peut-être prêt à revoir le jugement. Parce que c'est un match décisif, c'est un match très important, c'est un match qui aura une incidence sur leur calendrier, sur la confiance, sur plein de choses. Moi, je peux te garantir que là, je changerai peut-être d'avis.
Newcastle, à l'extérieur en Ligue des Champions cette saison, c'est victoire 4-0 sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Défaite à Marseille 2-1, mais souvenez-vous des circonstances.
Oui, ils ont perdu.
Marseille fait l'adif en 5 minutes. Et ensuite, c'est un nul à Leverkusen, 2 partout.
Donc,
c'est pas non plus ridicule.
Non mais Leverkusen, tu l'as vu, l'état de Leverkusen cette année, c'est plus Leverkusen de Xavi Alonso. Hein.
D'accord, donc il n'y a que des nuls en fait, en Ligue des Champions.
Bah non, mais
okay. Franchement, ils sont 20e. Ils sont
c'est pour ça que Marseille va se qualifier, c'est ça.
D'accord, c'est ça. Leverkusen, ils peuvent se qualifier pour les barrages.
Hein, ouais, ouais, non mais tu l'as vu dans leur championnat, comment ils galèrent.
Oui, d'accord.
Non, mais bon. Arrête. Bon. Ce que je veux dire, c'est que y a pas, c'est pas exceptionnel ce que nous fait Newcastle, okay. Et même en termes de compte. Et puis de toute façon, c'est toujours pareil. Le PSG. Et maintenant, il y a un statut, ils sont champions d'Europe au Parc des Princes. Okay. L'objectif, je te le dis, même s'ils ont du mal à l'avouer, l'objectif, c'est de finir vraiment dans les 8 pour s'alléger un peu le calendrier sur les prochaines semaines. Mmh. Donc, ils sont en mode, on doit gagner en mode Ligue des Champions, il n'y a pas le droit à l'erreur. Voilà, et si, en effet, comme Duga, il le dit, parce que ça reste un match de foot, tu peux te faire attraper contre une équipe, et ben là, il faudra peut-être revoir nos copies et nos analyses, parce que il y aura peut-être des motifs d'inquiétude à avoir.
Avant d'accueillir Florian au 32-16, le handball, est-ce qu'on y croit encore, Nicolas Paul Orsi?
Oh, on y croit encore, mais c'est irrespirable. Hein. Il reste un petit peu plus de 7 minutes. Dans ce match, les Allemands sont toujours devant d'un but. 31-30, le problème, c'est que le ballon, il est dans Zelmain, dans les mains des Allemands. Il faut faire un stop là pour avoir une balle d'égalisation. Je vous rappelle qu'un match nul, ça profite pas à l'équipe de France. Il faut vraiment gagner ce soir pour espérer voir les demi-finales à Erling au Danemark. Le croisé, Yorick Nord qui va trouver Semper. Superbe défense là des Français avec Fabregas qui met un gros temps pour Lichlein qui a du mal à trouver des solutions. Le tir de loin. Allez, on va avoir un ballon pour égaliser.
Voilà,
allez. Ce tir est contré, dévié par Rémi Desbonnets. Il reste 7 minutes dans ce match. Ballon pour les Bleus pour égaliser.
On va égaliser.
Changer d'âne.
Ouais, c'est vrai que la dynamique du gars, t'as raison, elle est en train un peu de s'inverser, notamment dans le rapport de force avec la défense française, là, physiquement, qui est en train de faire un chantier. Fabregas, Brillet et Karl Konan, là, c'est en train de faire très mal. Et il y a Aymeric Mine, le demi-centre des Bleus, qui commence à marquer des buts. Allez, Melvin Richardson, Thibaut Brillet, à l'intérieur, pour Tournat. Oh, l'énorme arrêt! C'est l'un des meilleurs gardiens du monde, et celui-là, il fait très, très mal au casque des Bleus. C'est minute 30. 31-30 pour l'Allemagne, ballon pour les Allemands. Pour mener deux buts.
JPP face à face comme ça. 19h18, est-ce que ce serait un échec pour le PSG de ne pas accrocher le top 8? Parlons-en avec Florian, qui est supporter parisien et qui est au 32-16, Jérôme.
Salut Flo.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Flo. Bonsoir. Écoute, qu'est-ce que tu penses déjà de ce match ce soir du Paris Saint-Germain? Est-ce que toi t'attends une victoire? Et puis oui, en effet, s'il n'y a pas victoire et que le PSG termine pas dans les 8, est-ce que c'est un échec?
Alors déjà, oui, moi je pense que ce soir Paris doit gagner. Ils sont à domicile, chez eux. On sait que c'est toujours des matchs importants à domicile, sachant qu'ils ont aussi leur destin entre leurs mains. Donc s'ils gagnent, et ils sont champions d'Europe. Et c'est aussi ça que je voulais dire, c'est, ils sont champions d'Europe, ils doivent assumer leur statut de favori ce soir face à Newcastle. Et évidemment, si c'est une contre-performance ce soir, comme vous l'avez dit, il faudra revoir les attentes qu'on a sur cette saison. Vis-à-vis des joueurs aussi, parce qu'on voit que des joueurs sont en méforme également. C'est aussi l'occasion ce soir de se montrer en prouvant qu'ils sont encore présents, on va dire, dans l'esprit du club.
Tu crois à ce côté bouton on-off en Coupe d'Europe, ce qu'a dit Jérôme, quand il y a la Ligue des Champions qui plus est au Parc des Princes, ça peut tout changer et métamorphoser l'équipe?
Oui, moi je pense que on va dire, ils savent très bien que s'ils veulent prouver quelque chose, il faut qu'ils fassent. Ça passe par la Ligue des Champions. On sait tous que la Ligue des Champions, c'est le plus haut en Europe et le plus vu, surtout. Donc, s'ils veulent prouver quelque chose, c'est en Ligue des Champions. Donc, je pense que ce soir, il n'y a pas de raison qu'ils fassent une contre-performance.
Oui, oui. Non, mais en plus, pour rebondir sur ce que tu disais, Benoît, dire il y a juste à voir les joueurs. Alors, ceux qui ont été blessés sur la première partie de saison, bien sûr qu'il fallait leur laisser le temps de retrouver une condition physique digne de ce nom. C'est le cas. Maintenant, il y a aussi de la gestion. Et là, ils se sont mis en mode. Moi, je te parle de Dembélé. Dembélé, il s'est blessé une fois, une deuxième fois. En effet, la première partie de saison, on a eu l'impression aussi qu'il avait du mal à digérer tout ce qui s'était passé de très bien pour lui sur les 6 premiers mois de l'année. Il n'y a pas de problème, tu peux l'entendre, tu vois, le mec il a gagné, il a eu le ballon d'or, c'est fantastique. Mais un mec comme ça, là maintenant, il sait que il faut faire tourner le compteur, il faut enchaîner. On l'a vu, moi je l'ai vu contre Lille. Franchement, les deux buts, et surtout le deuxième but qui marque,
oh là là,
ça montre le talent, et ça montre aussi dans l'état où il est, c'est que maintenant il s'est mis en mode où je vais redevenir important et faire gagner mon équipe. Et je pense que ces matchs-là, plus que les matchs je vais te dire, moyen de championnat qu'ils ont pu faire dernièrement, à commencer par le déplacement à Auxerre où ils ont gagné à l'arrache.
Ils ont envie de briller là.
Les deux champions. Du moins, ce soir, je serais déçu de voir Dembélé, de voir Doué au même niveau que sur certains matchs, surtout Doué aussi. Hein. Ouais, Doué.
Tu l'attends au tournant, Désiré Doué.
Oui, oui, parce que.
Merci à Florian qui est venu au 32-16.
Hein. Ces mecs-là, s'ils se mettent en mode Ligue des Champions comme l'année dernière, franchement, c'est compliqué pour les équipes adverses.
Allez, on revient dans un instant dans Rotten sans flamme avec Jérôme Rotten, Christophe Dugarry, Jean-Pierre Papin. Deux infos à vous donner. Le putsch tenté par John Textor pour redevenir le patron de l'OL et Ligue 1 Plus qui veut investir sur la Coupe du Monde. Et surtout, on aura la fin de match du handball. Le score et le temps qu'il reste à jouer, Nicolas Paul-Arcy, entre la France et l'Allemagne.
Les 5 dernières minutes, on vient d'entrer à peine dans ces 5 dernières minutes. Les Allemands mènent de 2 buts, 33-31. On a un ballon pour revenir à un petit but de l'Allemagne.
Allez, la fin du match dans un instant. Ne bougez pas, à tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h25 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme, on continue l'émission, il y a beaucoup d'actu. Alors déjà, il y a la Ligue des Champions, le football avec Christophe Dugarry, avec Jean-Pierre Papin et avec Benoît Boutron. On est là depuis 18h, donc on analyse tout ça et c'est pas fini. Et puis il y a surtout du hand.
Ouais.
Nico Paul Orsi, il en est où ?
Dugarry aurait dit que les mouches avaient changé d'âne. On peut dire aussi que la messe semble dite pour l'équipe de France, là, Nico, là.
Aïe. On se dirige vers un nouveau fiasco, un nouvel échec pour le handball français masculin après les Jeux de Paris, après une défaite l'an dernier en demi-finale des championnats du monde contre la Croatie, une sélection qui est à notre portée sur le papier. Les Bleus ne vont même pas accéder aux demi-finales de cet Euro. Alors ils sont menés de 4 buts, hein. Il reste moins de 2 minutes dans ce match, 36-32. C'est vrai que ce tour principal était très costaud avec que des nations médaillables sur le papier dans les 6 équipes qui composaient cette poule, mais la France va s'incliner 3 fois dans cette compète contre le Danemark, contre l'Espagne et donc face à l'Allemagne.
Au niveau,
quand on voit les individualités qui composent cette équipe, clairement, ouais, Jérôme, non, mais ils sont pas au niveau.
Il y a que des joueurs sélectionneurs
qui sont des numéros 1 dans leur poste. Alors c'est vrai que le bilan de Guillaume Gilles, il va commencer à se poser. C'est vrai que son nom fait à chaque fois débat dans le coaching, surtout dans les résultats. Et bien évidemment, ce dossier va être ouvert à nouveau parce que cette équipe, elle a clairement le potentiel pour gagner. Je vous le dis, il n'y a que des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs européens, qui jouent la Ligue des Champions et qui sont les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Donc forcément, il va y avoir des débats après cette nouvelle défaite. C'est 1 minute 40 encore au chrono, le ballon dans les mains de Dick Kemem avec Thibaut Brier. L'exploit est impossible, hein, clairement, mais on sent que les Bleus ont posé un dernier temps mort pour essayer de se rassurer. Dick Kemem sur une jambe avec des crampes qui va marquer son 11e but du match. 11 buts, 6 passes décisives. Il a été fabuleux, Dick Kemem. Lui au moins, il aura lavé l'affront des Jeux Olympiques et de cette perte de balle à 6 secondes de la fin. Il aura tout donné pour son pays, mais franchement, le reste de l'équipe n'aura pas forcément été à la hauteur. C'est surtout collectivement et défensivement qu'on n'a pas réussi à faire de différence. Les Allemands ont le ballon dans les mains, il reste un petit peu plus d'une minute. Julian Koster face à Rémi Desbonnaires, on va souffler un marché, ballon pour les Français pour essayer de recoller un petit peu. Thibaut Brier, allez, faut prendre tous les risques même si c'est impossible, hein. Là c'est même plus de l'ordre du miracle, c'est impossible tout simplement, le décalage à l'aile pour Hugo Desca qui va marquer pour les Bleus. On se réveille trop tard, mais que c'est dommage. Que de regrets pour cette équipe de France. 36-34 pour l'Allemagne, il reste 45 secondes et le coach allemand qui pose un dernier temps mort pour éviter une dinguerie. Mais je vous rappelle qu'il faut quand même que l'équipe de France gagne cette partie. Un match nul ne suffirait pas aux Bleus. Marquer 3 buts en 45 secondes, c'est impossible. Et franchement, vous en faites beaucoup des débats sur les sélectionneurs français. Il y a un vrai débat.
Non, on a surtout Rotten sélectionneur.
Ah, moi, je peux pas transformer en sélectionneur du hand. Hein. Je suis déjà sélectionneur de l'équipe de France de football. Donc, mais bon, on s'en occupera plus tard.
Ah, ne ris pas, hein, Nico. Attends, c'est un carton, Rotten sélectionné.
Nous, en fait, à RMC.
Ça, j'ai bien vu, et puis j'ai vu la liste. Ça
serait pas pire. Hein.
On sait.
Pas pire.
Les attitudes sont dépitées. Hein. On voit Guillaume Gilles, là, qui a. Je sais pas s'il a dit à ses joueurs, on n'a pas les temps morts, là, nous, ici, depuis le poste commentateur, mais il a pris la plaquette. Il est resté même pas une trentaine de secondes. Il a regagné son banc de touche. Encore une fois, l'Allemagne. Alors, c'est très belle nation du hand, hein. Franchement, sur le papier c'était 50-50, mais cette équipe a largement les moyens de battre cette équipe d'Allemagne.
Nico, Jérôme Sillon, il n'est pas avec toi.
Non, il n'est pas avec moi, Jean-Michel.
Ah non, parce que c'est lui.
Attends, mais Nico aussi, c'est un chat noir. Nico, c'est un sacré chat noir.
Pas Nico.
Déjà, c'est lui qui suivait les Girondins. Ils ont disparu.
Ouais, j'ai le double titre olympique à Tokyo hein, avec les équipes de France.
Ah oui, pas quand ça, même. Quand même. Ah ouais, non, ça, c'est petit, ça, Benoît, ce que tu dis à
Nico. J'ai le double titre. C'est bon, ça.
Ah ouais, j'ai le double titre.
Bien évidemment.
C'est grâce à toi.
Je plaisante. On n'y est strictement pour rien dans les performances des joueurs, je vous rassure. Les ballons, le ballon pour les Allemands. Dernier ballon, le public de Herning est debout parce que bien évidemment pour les Danois l'équipe de France qui sort
au
c'est terrible, 5 secondes, Rémi Desmoulins est dépité, le dernier but des Allemands, la France est éliminée de ce championnat d'Europe, la France ne verra pas les demi-finales, c'est une nouvelle désillusion pour le handball français qui est en train de passer à côté de cette génération qui a pourtant des talents exceptionnels, mais cette équipe de France-là n'y arrive plus, n'y arrive pas, défaite 38-34 contre l'Allemagne.
Merci Nico, donc c'est terminé pour l'équipe de France à l'Euro de handball, Nico Pollard-Schick qui a deux titres olympiques, mais qui a Gérard Lopez aussi, du gars. Et ça équilibre un peu tout, malheureusement. Allez, 19h30.
C'est chaud.
On va lui envoyer Textor, ça va lui faire les pieds.
Oh là, bah justement, tiens, on en parle parce que l'arbitre vidéo nous appelle.
Jérôme, oui. Je t'invite à écouter ça.
John, pas de regret, ok, vous êtes en colère, donc votre objectif ultime, c'est peut-être de revenir alors à la tête de Lyon.
No, it's just one of those provocative questions that you're sort of you're supposed to throw out there. Michelle's
non, c'est pas provoque du tout.
Who says I want to come back?
Mais non.
La VAR de Rotten sans flamme.
Et pourquoi vous avez dit que non? Mais nouvelle dinguerie donc de John Textor.
Incroyable. Lui, c'est les champions du monde du mensonge.
T'as vu ce qu'il m'a dit? En plus, il me dit c'est pas bien. C'est des polémiques.
D'où tu sors ça? D'où tu sors cette idée? C'est polémique.
C'est fou.
Polémique.
Où tu as entendu ça?
Donc cette tentative de fouiller de l'homme d'affaires américain pour reprendre le contrôle de l'Olympique lyonnais.
C'est dingue.
L'Assemblée Générale, c'était ce matin, une tentative qui a échoué grâce à la résistance de Michel Kang et du fonds d'investissement Arès. Le premier sur le coup, c'était Edouard G qui est avec nous. Salut Edouard.
Salut Jérôme, salut Edouard, les gars.
Bravo Edouard.
Déjà bravo.
Bravo d'avoir tenu Edouard.
Ouais, et il faut que tu nous racontes cet épisode complètement lunaire une nouvelle fois.
Alors, tout part, tu l'as dit, de cette Assemblée Générale convoquée pour aujourd'hui 11h. Et du coup, deux des trois administrateurs les plus importants, ceux qui contrôlent 87% de l'OL, votent. Alors ça, c'est totalement logique, réglementaire, obligatoire, dimanche. Donc, ils font passer leur vote par correspondance. Le troisième administrateur est un petit peu agacé par ces votes. Et ce troisième administrateur, c'est le patron des deux autres. Et ce troisième, c'est John Textor. Qu'est-ce qu'il décide? Eh ben, il décide de partir dans un putsch. Il va débarquer les deux administrateurs qui viennent de voter. Il décide donc qu'ils sont révoqués. Donc, leurs votes ne sont pas légaux. Et tout ça, il le dit par mail à l'OL, donc à Michel Kang et à Michael Gerlinger dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, vous imaginez lundi matin la sidération du bord de Lyonnais qui entre à ce moment-là en résistance, qui consulte un petit peu ses avocats, et les avocats regardent et ils cherchent une faille et ils la trouvent rapidement parce que John Textor a oublié un détail, c'est qu'il a oublié de demander à son banquier Arès l'autorisation de procéder à cette manœuvre. Et ben oui, parce que il aurait dû le savoir, lui l'Américain, qu'il dépendait de l'argent du banquier, de son prêteur qui a le vrai pouvoir. Et du coup, la nuit dernière, la réplique est sanglante d'Arès, avec un courrier où la deuxième ligne est signifiée la phrase suivante, la révocation de John Charles Textor en tant que directeur de la compagnie avec effet immédiat. C'est donc l'arroseur arrosé, celui qui voulait débarquer, eh ben, est débarqué. Le coup d'État fait long feu. L'OL est passé, messieurs, à côté d'une nouvelle tempête parce que vous imaginez que, bien évidemment, John Textor voulait arriver aujourd'hui physiquement à Lyon pour une motion de censure, comme on dirait en France, et débarquer donc Michel Kang et Michael Gerlinger. Donc Michel Kang a sauvé, on va dire, une deuxième fois l'OL. Ça, c'était avant 9h, avant 11h ce matin. Et ensuite, l'Assemblée Générale, comme on dit, après la tempête, le calme. L'Assemblée Générale a pu se dérouler tranquillement avec deux moments symboliques. Les actionnaires minoritaires ont voté contre la rétribution de John Textor. Eh bien oui, parce qu'il y a quand même, messieurs, 2 millions d'euros pour sa société, pour les frais de gestion. Et donc 30 000 euros pour lui directement. Donc il va quand même toucher de l'argent. C'est un geste symbolique de ces actionnaires minoritaires. Bon. Et surtout, deux salles, deux ambiances. Michel Kang, elle, a proposé la résolution numéro 7, selon laquelle elle ne touchera rien de l'OL cette saison.
Bravo, Madame Kang. Faut-il bannir John Textor du monde du foot? Comment vous réagissez déjà à ce putsch?
De toute façon, moi, ce que j'ai à
dire. Ben oui, bien sûr.
Je précise juste qu'il nous dit que c'est tout faux, ce que j'ai écrit.
Ah oui, alors lui, il contredit cette version, mais bon.
De toute façon, il n'arrête pas de contredire. Nous, quand on l'a fait longuement, très longuement, il nous a limite bien endormi.
Il nous a dit qu'on était un tabloïd.
Qu'on était des tabloïds et que ceci, cela.
C'est que de l'esbrouf.
Je sais pas. Vas-y, Jean-Pierre.
C'est que de l'esbrouf, ce mec. C'est à chaque fois que. Il fait tout et rien en fait. Il propose, il fait de la cavalerie partout. Il achète, il va prendre des joueurs qu'il a déjà dans un autre club pour le mettre. Il paye pas. Enfin bref, c'est la magouille à temps complet quoi. Et là, tu reviens à Lyon, mais tu les remets dans le même bordel que l'année dernière. C'est incroyable, incroyable.
Dugas, c'est tout ce que tu détestes.
Non, mais tout ce qu'on déteste tous. On est des amoureux du football sur le plateau. Voilà. J'espère que c'est la dernière fois qu'on parle de ce type. Voilà, sincèrement. Et moi, ce qui m'épate toujours dans ce genre de truc, c'est que ces gens qui sont censés être des gens plutôt brillants, qui ont réussi dans les affaires. C'est-à-dire que le mec, il a réussi quand même à se faire prêter 480 euros par Arès. C'est-à-dire que moi, j'aimerais beaucoup connaître le mec de chez Arès, quoi. C'est-à-dire, t'as prêté à ce guignol 480 millions d'euros. Non, mais le mec, et puis.
T'as raison.
C'est toujours ça qui m'épate. Ces gens qui sont brillants, qui sont chefs d'entreprise, qui ont monté des fortunes et des milliards, tu te dis, mais les mecs, c'est des génies. Ah non, mais c'est des génies. Puis une nouvelle fois, moi, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'après, ces gens-là s'étonnent et arrivent avec des grandes paroles à te dire je comprends pas que les Lyonnais ne m'aiment pas, tu vois. Ou à Bordeaux, Lopez qui te dit je comprends pas que les Bordelais ne m'aiment pas, ne m'apprécient pas, je sais plus quoi faire
j'aime
pour
le club. En plus,
ouais, j'aime le club. Ils sont toujours pleins de phrases comme ça, tu sais. Alors, il a failli un coup racheter Lille, après, il a fallu racheter Marseille, après, il a racheté lui. Voilà, tout ceci. Lui, c'est Botafogo, après c'est Lyon, après c'est le club belge, après c'est ces gens-là.
Crystal Palace aussi.
Enfin, c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils jouent en toute impunité et sans aucun respect, sans aucune limite.
Ils s'en foutent de perdre de l'argent.
Avec nos clubs, avec nos maillots, avec nos avec ce qu'on a pu faire, quoi, et ce qu'on a pu aimer. Nous, c'est l'amour simple, noble. On a tous été, moi, à Chaban-Delmas, quand j'étais petit, quand j'avais 7, 8 ans, 9 ans, c'est des souvenirs de vie. Alors qu'eux, ils arrivent, ils te saccagent tout ça avec mépris, sans aucune. Je suis choqué qu'on puisse montrer aussi peu d'humanité en définitive, parce qu'il y a des gens, comme le disait tout à l'heure la supportrice de l'OM, qui font 700, 800 kilomètres, qui payent des centaines d'euros ou des milliers d'euros par an pour aller voir leur équipe préférée, qui achètent des maillots, et moi, cette inhumanité qui me file la gerbe en définitive, tu vois.
Là où t'as raison là-dessus sur la relation humaine qui n'a pas, c'est que t'imagines quand même ce qu'il tente là, le coup d'état qu'il a tenté. Imagine juste ça marche.
Ouais,
il revient à Lyon.
Alors que Lyon
ça.
Se relève de manière admirable.
Non mais quel but, parce que de toute façon tu sais que tu vas pas être le bienvenu, toute façon que tu peux pas rester. Mais le mec il en a rien à carrer en fait. Il se dit vous m'avez fait du mal, parce que lui c'est ce qu'il pense. Vous m'avez fait du mal à me retirer. Mmh. Là l'équipe elle va bien. C'est quoi, je vais virer l'équipe dirigeante aujourd'hui et je vais revenir. Non mais c'est ça qui est, c'est complètement fou quoi.
On est sûr que Lyon on est définitivement débarrassé d'ailleurs.
Oui, Arès a décidé. Physiquement, il est en. Alors, il n'est plus là parmi ses trois administrateurs. D'ailleurs, il a été coopté un autre administrateur pour la structure OL Football Group. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors après, il peut y avoir des batailles juridiques et financières qui vont avoir lieu dans les coulisses et dans le
secret. Qu'est-ce qui se passe pour Botafogo?
T'as raison, Jean-Pierre, parce que derrière, c'est en train de tout s'effondrer. Molenbeek, il y a un petit moment, l'OL l'année dernière, Botafogo, c'est en train de tout exploser et également. Donc au niveau de l'argent, exactement. En sachant qu'au départ, lui, il a dû mettre 5 millions à peine.
Edouard, bravo encore.
Mais moi, je peux pas les rencontrer, moi, les mecs de Arès. Là, j'ai un peu d'oseille. Je les mets les 5 millions, moi, ça va aussi. Pour 480,
mais qui rachète Bordeaux.
Je vais les trouver les 5 millions. Ouais, je sais pas où, mais je vais les trouver. Voilà. Je vais les interpréter aussi.
Merci, Edouard. Tu parles anglais couramment avec des notions fiscales et financières.
Mais pour 480 millions, je vais l'apprendre en anglais à une vitesse, tu n'imagines pas.
Écoute, Edouard, il faut quand même le dire. C'est ton info, donc bravo. pour le boulot. Et voilà, bravo.
Merci,
Edouard. Tu n'as pas beaucoup dormi. Donc, va te reposer maintenant.
Allez, bah,
allez, merci.
Allez,
merci. C'est pas Edouard qui va finir administrateur.
Et pourquoi Edouard.
Alors, autre info qui va vous intéresser, elle est tombée aujourd'hui. C'est donc Nicolas Taverneau qui a annoncé aux dirigeants des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 un accord entre la FIFA et Ligue 1 Plus pour la diffusion intégrale de la Coupe du Monde 2026. Il y a déjà un diffuseur gratuit qui est M6, gros ouais. investissement de la part du groupe M6, qui va diffuser 54 matchs. Mais il manque un diffuseur payant en France. Mmh. Et donc Ligue 1 Plus s'est positionné à hauteur de 20 millions d'euros auprès de la FIFA. Il y a un préaccord avec la FIFA. Le but, c'est pas forcément de recruter de nouveaux abonnés, mais c'est surtout de conserver les abonnés parce qu'il y aura 3 mois sans programme sportif sur Ligue 1 Plus. Donc entre les deux championnats, il faut bien occuper les abonnés et les garder. Info importante, malgré le préaccord, si un autre diffuseur payant se présente à la FIFA avec une meilleure offre, eh bien c'est celui-ci qui devrait être désigné par la FIFA. On pense évidemment à beIN Sports qui a diffusé les deux dernières Coupes du Monde 2018 et 2022.
Tu crois qu'ils vont laisser faire ça, beIN Sports?
En tout cas, ils ne sont pas manifestés.
C'est les Qataris,
pour
c'est Nasser El Khelaifi.
Et puis c'est un enjeu, t'as raison.
On connaît les tensions aussi avec Ligue 1 Plus et ce qu'ils pensent de cette chaîne. Je les vois pas laisser faire le
est-ce que vous comprenez la stratégie de Ligue 1 Plus?
Non, mais
qui court après les millions, mais qui veut quand même investir sur la Coupe du Monde.
Mais comme dit Dugas, je pense que
il est là pour ça aussi, de Taverneau, c'est un mec de télé. Il a moi je trouve que le mec il tente un truc et tout, je trouve que c'est
quand même mieux que la diffusion des matchs de Bordeaux.
Je trouve que l'idée est plutôt excellente pour attirer des abonnés.
Et retrouver les bonnes pilules pour.
Les calculs sont faits parce que quel est l'intérêt d'avoir des matchs? Alors c'est juste pour satisfaire le million. Est-ce que ça va vraiment t'amener des abonnés en plus?
Conserver tout le monde. Ouais.
Et donc c'est une perte sèche de 20 millions d'euros. Quoi.
Oui, alors eux te disent que d'après les sources de LFP Média, c'est qu'avec les rentrées publicitaires, tu pourrais quand même combler l'investissement que tu réalises. D'accord. Donc ça c'est un calcul.
Puis on est tranquille financièrement.
On n'est pas un ou deux millions près du gars français. A priori.
Il voulait bien mettre 5 millions sur un match de national, donc au pire, c'est une perte sèche. Écoute, c'est pas grave.
Sachant qu'attention, il y avait déjà une procédure entre beIN et la Ligue. La Ligue a gagné, donc beIN va devoir déjà payer. beIN, c'est bien évidemment, ils vont pas se laisser faire, ou alors pour le coup, ils se retrouvent un peu à poil.
Quand tu vois le carton de la carte,
j'y crois même pas. beIN, ils vont se mettre sur l'affaire. Ils vont proposer 21 millions.
Ouais, c'est possible. Ouais. Dans un instant, le quiz de Rotten sans flamme. Le grand Louis Gerbier arrive dans ce studio.
Je suis en route pour un grand chelem.
Et j'espère qu'on aura les alertes compo pour le PSG, pour l'OM et pour Monaco. Grande soirée de Ligue des Champions sur RMC. Restez avec nous.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h47 sur RMC. La musique, la Ligue des Champions. Ah. Oui, ça arrive dans 1h15. Un peu moins d'une heure et quart, le multiplex Ligue des Champions. Dernière journée de ces matchs de ce mini-championnat. On va se régaler. Vraiment, il y a du suspense partout. On est avec Christophe Dugarry, Jean-Pierre Papin pour finir cette émission. Benoît Boutron. On va faire le quiz de Louis Gerbier.
Et dans un quart d'heure.
Sur la Ligue des Champions,
exactement. L'After Live, spécial Ligue des Champions. Les 18 matchs à suivre en direct. Les 3 clubs français engagés. L'objectif, les barrages pour Monaco, pour Marseille, le top pour le PSG, on va se régaler.
18, avec Jean-Louis je ne sais pas qui va analyser tout ça, mais ça va être compliqué. Hein.
Allez, on y va, c'est parti.
Comment il va faire, le mec
Rotten. Tous contre Rotten.
Salut Louis Gerbier.
Salut l'équipe.
On a un magnifique cadeau ce soir.
18.
Ah, Manu, déjà, suivre deux matchs en même temps, c'est compliqué.
T'imagines 18. Oh, je vais écouter.
Le cadeau est magnifique. C'est un maillot du PSG signé et authentifié de la part de Vitinha grâce à notre partenaire Authentic Signature. Deux supporters parisiens vont s'affronter, Damien et Pierre-Olivier. Salut à vous deux.
Salut Pierre-Olivier, salut Damien.
Tout le monde.
Bienvenue
salut
les gars.
Tout le monde.
Un super est-ce cadeau. Ne vous trompez pas. Hein.
Alors justement, est-ce qu'il y en a un des deux qui préfère jouer avec le reste du monde, avec Duga et JPP?
Ah, c'est très bon ça.
Celle-là, c'est la meilleure.
Il n'y a pas une autre question?
Ok, d'accord. Celui qui a rigolé.
C'est une honte. C'est une honte.
Bravo. Allez, on tire au sort. Louis, qui va jouer avec Jérôme? Damien ou Pierre-Olivier?
Ah, désolé, Pierre-Olivier.
Ah, Pierre-Olivier, t'es avec Jérôme. Désolé, excuse-nous.
Il a gagné.
Ah, bah non, c'est bon, t'es avec Jérôme. Ouais. Et du coup, Damien avec le reste du monde.
Eh ben, bon courage.
Allez, vas-y,
Damien.
Louis.
Moi, j'ai une pression.
Putain, il a dit.
J'ai une pression ce soir parce qu'il y a Jean-Louis Tour qui nous observe. Eh c'est
ouais,
ça.
C'est comme ça.
C'est pas tous les soirs. Le thème du soir, tu l'avais deviné, Jérôme. Je deviens prévisible. Les matchs de Ligue des Champions de la soirée.
C'est original.
J'en ai choisi trois. On va commencer par Naples-Chelsea.
Bon, voilà. Du moment que tu ne trompes pas d'affiche.
Ouais, c'est
parce que des fois, tu trompes d'affiche. Bah,
c'est arrivé une
fois. C'est vrai que c'est le match qu'on va suivre ce soir.
Ouais, bah oui, c'est pour ça que je commence par lui. Ouais. Parce que vraiment, moi, je vais être sur Canal Live 11 pour le voir.
Super.
Question Larquet. Ah.
26-15, code de Kinover pour les jeunes Kinover.
Gerbier, t'es un truand.
C'est quel match, là ? Naples-Chelsea. Et c'est même une croisée avec la question con.
RMC. Oh
là là. Qu'est-ce que vous êtes con ? Mais qu'est-ce que vous êtes con alors ?
La question con.
Vous avez compris, en gros, c'est un jeu de mots douteux sur un joueur des années 90. Quel joueur des années 90 passé par Naples et Chelsea passait son temps à accuser les gens ? Il était dans la rue, là, il hurlait j'accuse, j'accuse tout le temps.
Zola ?
Ouais.
1-0 pour Jérôme.
Question.
Donc là, t'as voulu faire une question littérature.
On avait qu'à ce moment-là.
Ouais, on peut. Non, ouais.
Alerte. Compo Paris Saint-Germain avec une énorme surprise, Valentin Jamin.
Safonov est titulaire, messieurs. Le Matvei Safonov va officier dans la cage parisienne ce soir. Il revient de blessure. On rappelle, il avait été très bon en remplaçant Lucas Chevalier en décembre.
Il est pas dans la liste, donc.
Jusqu'à la Coupe intercontinentale. Et Matvei Safonov revient de blessure et écarte du 11 Lucas Chevalier. On l'avait vraiment pas vu venir. Il est donc de retour de blessure et de retour dans les 11. Hakimi est là à droite de la défense également, Nuno Mendes à gauche.
Chevalier
Marquinhos et Pacho pour la charnière, le milieu de terrain avec Vitinha, avec Joao Neves qui revient aussi de blessure et avec Warren Zaïre-Emery. Et l'attaque, c'est Kvaratskhelia à droite, Dembélé en pointe et Barcola à gauche, donc pas de Désiré Doué.
Merci, pas mal quand même. Valentin, belle équipe, mais la surprise, Safonov dans les buts à la place de Chevalier. Alerte compo pour l'OM à Bruges, Florent Germain.
Ah, on y est effectivement, et il y avait un doute concernant Paet Chao, c'est Murillo qui va jouer. La compo marseillaise, Aguerd entouré de Balerdi et de Medina, Rouli dans le but évidemment. Murillo à droite, Wea a priori à gauche. Kondogbia est bien là aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg et le trio offensif comme annoncé tout à l'heure. Guiri en pointe entouré d'Ahmed Junior Traoré et de Mason Greenwood. Les supporters marseillais sont déjà sur place au Jan Breydel Stadion. Ils vont être environ 1500 soir pour ce match décisif.
Et alerte compo,
ça devrait au moins accrocher à nul ça quand même.
Et ben on verra. Alerte compo pour Monaco. Monaco qui reçoit la Juve, Maxime Tilliette. Salut Max.
Oui, bonsoir à tous. Et pour Sébastien Pocognoli, ce sera un 4-3-3. Il décide de renforcer son entrejeu.
10 défenseurs.
Non, quand même pas. Il n'en a pas assez pour pouvoir le faire. Donc ce sera un 4-3-3 avec Zakaria Camara et le jeune Mamadou Koulibaly en renfort, plutôt à la place d'un Ansu Fati qui normalement aurait dû jouer en soutien de Balogun. C'est le profil plus défensif de Koulibaly qui a été privilégié avec évidemment Balogun associé à Kliouch et Golovin. Côté Juventus, on retrouve évidemment Pierre Kaloulou ou encore Kefren Thuram et l'ancien Lensois Loïs Openda à la pointe de l'attaque.
Merci Max. Tu les avant-matchs à partir de 20h dans l'After Live avec Jean-Louis Tour et Emmanuel Petit. On reprend le quiz, 1-0 pour Jérôme et Pierre-Olivier contre Damien et le reste du monde.
Allez, question du gars.
Faites comme moi, soutenez la fondation Alzheimer.
Ça concerne un ancien coéquipier de Dugas. Quel joueur passé par les deux clubs Naples et Chelsea était scruté par Didier Deschamps pour les Bleus alors qu'il était déjà international sénégalais. C'est dommage. Question, t'y rendis compte?
Ti rendi conto se tu posi una questione a un supporter italiano che ha dan qualcosa? Chi è stato più forte?
Chi è stato più forte?
Non va a scrollare.
Ils sont là, JPP Dugas?
On ne sait pas. Franchement, on ne sait plus.
Ouais. Le pauvre Damien, il a cru qu'il allait gagner son maillot de Vitinha.
Quel champion d'Europe avec l'Italie passé par Naples et Chelsea a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea en 2021? Champion d'Europe italien.
Jorginho.
Oui.
C'est simultané là.
Non, je sais pas. Le premier, le vrai premier, c'est
Matisse. Réduction de l'écart du reste du monde.
Allez, oui, on change de match.
Ah, merci, enfin.
Dortmund-Inter.
Okay. Oh, ouais, super.
Je me fais marrer, au moins, c'est bien. Question flash. Quel joueur passé par les deux clubs a marqué un but en finale de Coupe du Monde contre la France?
Dortmund-Inter. Ah, je l'ai.
2018.
Dorky. Perisic.
Bravo.
Perisic.
Oh, deux partout, de c'est JPP. Incroyable. Pierre, 1:10.
Allez, je suis réveillé, ça y est.
Une question auditeur pour Damien,
allez,
quand même. Qui
allez chercher vos maillots. Damien et Pierre-Olivier.
On est sur Dortmund-Inter. Quel champion d'Europe avec le PSG passé par les deux clubs. Il ne mérite pas le maillot.
Facile.
Merde, attends.
Et bah alors, champion d'Europe parisien qui est passé par l'Inter.
Il a,
et Dortmund.
Il a failli gagner la CAN. Pourquoi il a pas gagné, Benoît, déjà?
Hakimi.
Ah, bravo, oui.
Hakimi.
Ah, putain, ouais.
Qui l'a dit, Hakimi?
Damien.
Ouais, bah, c'est Damien. Voilà. Ça fait 3-2 pour le reste du monde. Incroyable. Voilà. La routine.
J'essaierai de me prendre. Oh là là là.
Le score est remis à zéro.
Oh là 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 là,
l'arnaque. Oh, l'arnaque.
Allez, restez dans le quiz.
Attends, ça s'est joué à rien.
Allez, pensez à vos auditeurs, restez dans le quiz.
On finit avec PSG Newcastle et une question pour le patron.
Salut, c'est Jérôme Rotten.
RMC, la question pour le patron.
On n'a pas le droit de faire ça.
PSG Newcastle, je l'ai. J'ai tous les droits. Quel ancien coéquipier de Jérôme a rejoint Newcastle après son départ définitif du PSG?
Ah ouais?
Je peux répondre ou pas?
Oui.
Jérôme Pancrate.
Non. Fabrice Pancrate.
Oui. Fabrice Pancrate.
Jérôme
Pancrate. Ah, il est pas loin.
Putain, Jérôme Pancrate, là va rester Jean-Pierre.
Non mais Jean-Pierre,
t'es toujours grave. En route pour un grand chelem du coup.
Je présente mes excuses à Damien qui perd le maillot sur ses Jérôme Pancrate
et à Fabrice aussi.
Et je dis bravo à Pierre-Olivier qui remporte ce magnifique cadeau.
Bravo Pierre-Olivier. Et on aime Jérôme Pancrate
et on l'adore.
Tous contre Rotten sur RMC avec authentiquesignatures.com, le site de référence des maillots signés et certifiés, véritable pièce de collection. Rendez-vous sur authentiquesignatures.com.
Merci Louis Gerbier, merci Christophe Dugarry, Jean-Pierre Papin. Dans un instant,
demain,
immense soirée européenne, l'After Live, tous les matchs, les 18 matchs de la dernière journée à suivre avec Jean-Louis Tour, avec Manu Petit, Jérôme.
Vous allez vous régaler, restez bien à l'écoute d'RMC. Nous, on se retrouve demain pour débriefer tout ça. Alors, les 18 matchs, on ne pourra pas, mais au moins les 3 matchs des clubs français, on sera là demain à partir de 18h. Ça va être une grande émission, mais surtout, restez à l'écoute d'RMC. C'est ici que ça se passe ce soir, tous les matchs, 18 matchs en même temps. Bisous, bonne soirée, à demain.
C'est jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.